question à son entourage. La réponse est non.
Il ne fera jamais ça.
Ce n'est pas nécessaire. On va voir. On va voir qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui, mais ce n'est pas dans les cartes de suivre mes conseils.
OK. L'autre affaire que je me demandais. Je sais que M. Carney s'en va là-bas, Dimitri, là, pour renégocier. Il veut un grand deal. On mettrait tout là, sur la table, on règle tous les litiges. Est-ce qu'on peut vraiment faire ça avec quelqu'un qui a renégocié un accord de libre-échange dans son dernier mandat et qui n'en a jamais respecté la signature?
Non, et ce n'est pas la stratégie de Mark Carney. Mark Carney ne se rend pas à Washington aujourd'hui aveuglé, disant « Je suis un grand négociateur, je vais négocier une nouvelle entente, on va la signer. » Donald Trump va dire « C'est la meilleure entente depuis l'invention du pain tranché dans toute la galaxie à travers le monde. » Parce que tout le monde sait que la dernière entente, il avait dit exactement la même chose. Il avait mis sa signature sur l'entente, puis là, il a dit « C'est la pire entente. »
Lui-même, M. Trump, il dit toujours ça. Qui a signé ça? Puis là, les images sortent, les images d'archives. Voilà. C'est lui qui l'a signé, l'entente.
Voilà.
Donc, mais qu'est-ce qu'il va chercher? Le but de cette visite, pour toi, c'est quoi? Il veut revenir avec quoi, M. Carney?
Puis, il n'a pas besoin de revenir avec quelque chose aujourd'hui. C'est là où souvent les journalistes ou souvent les gens qui regardent ça disent « Est-ce qu'il revient avec une entente signée aujourd'hui? » Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est une mission de repérage pour Mark Carney.
De repérage.
Il veut voir Donald Trump dans le blanc des yeux. Essayer, c'est une chose de le voir à la télé, c'est une autre chose. Écoute, on a une clip de Donald Trump, Pierre. Écoutons ce qu'il a dit.
He's coming to see me. I'm not sure what he wants to see me about, but I guess he wants to make a deal. Everybody does. They all want to make a deal because we have something that they all want.
Donc, Monsieur Trump qui dit, bon, je sais pas pourquoi il vient me voir, Monsieur Carney là. J'imagine qu'il veut faire un deal. Et là, il part sur une tangente. Ils veulent tous venir faire un deal avec moi parce que on a ce qu'ils veulent en parlant des autres pays. Donc, ben c'est un peu nonchalant. Il sait pourquoi Carney vient. Là. Il y a quand même un ordre du jour quelque part. Là.
Oui et non. Encore une fois, c'est Donald Trump. On doit accepter la réalité que c'est Donald Trump.
Faut pas que j'oublie ça, c'est vrai.
L'objectif aujourd'hui, c'est repérage. Essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la tête de cet homme-là et se faire une stratégie après ça.
OK, on va suivre ça avec grand intérêt plus tard à l'émission. Là, on va recevoir l'ancienne chef de cabinet de Mélanie Joly, qui connaît aussi, là, disons, les ficelles diplomatiques comme ça. On va pouvoir jaser de ça avec elle. Et je veux t'entendre, avant qu'on passe à ton prochain sujet, là, sur le caucus conservateur, Dimitri. Je vois de loin qu'il y a comme un mouvement souverainiste en Alberta. C'est quoi ça?
Bientôt, il va y avoir une rencontre bilatérale entre Paul Saint-Pierre Plamondon puis Daniel Smith. Peut-être qu'ils peuvent s'organiser de faire les référendums en même temps, en parallèle. Oui, l'Alberta est très frustrée. Les Albertains sont très frustrés. Je vais te donner un exemple. Puis, très souvent, je le dis, j'ai eu le privilège de voyager à travers le pays. Et ce que certains ne comprennent pas, c'est que si j'avais deux provinces à prendre et dire « voici les deux provinces qui ont le plus en commun », tu vas être surpris avec ma réponse. C'est les Québécois et les Albertains.
Ah oui, pourquoi?
Parce que c'est la même philosophie. C'est la philosophie de mettre chez nous. C'est la philosophie de respecter nos compétences. C'est la philosophie de « mêlez-vous de vos affaires, Ottawa ». Donc, l'Alberta est frustrée. Puis je vais te faire le parallèle. Imagine que le gouvernement fédéral mette en place des réglementations pour dire hydroélectricité, tu peux seulement la vendre aux États-Unis, tu peux rien faire d'autre avec ça. C'est mettre des contraintes. Présentement, le pétrole albertain ne peut être que vendu aux Américains, raffiné par les Américains. Et en passant, on pourrait aussi faire des vidéos de TikTok pour dire merci à l'Alberta parce que plus de 80% de notre pétrole au Québec, c'est du pétrole albertain. Donc, la frustration avec le gouvernement de M. Trudeau depuis les 10 dernières années, de la même façon qu'il y a une frustration avec le gouvernement de Pierre-Éliott Trudeau. Puis là, ils sont en train de brandir la même menace que le Québec.
OK. Donc là, juste pour situer les auditeurs, là, Dimitri, là, il y a un processus de pétition qui pourrait mener à une question référendaire aux prochaines élections en 2026, je pense, ouais.
Oui.
Est-ce que c'est un mouvement qui est sérieux? Tu sais, je comprends qu'il y a des Albertains qui sont frustrés, mais il y a quelque chose d'identitaire au Québec, il y a quelque chose d'une nation différente oui. aussi, qui a donné du carburant à l'idée de souveraineté. C'est pas la même chose en Alberta, il me semble.
Non, ce n'est pas la même chose. Le parallèle que je fais, c'est les Albertains et les Québécois, leur perception d'Ottawa est la même.
OK.
De parler de l'indépendance de l'Alberta et la comparer à celle du Québec, c'est très différent.
Mais il y a un référendum demain matin en Alberta, là. D'après toi, là, c'est quoi le score pour rester dans le pays?
80% et plus. Okay. Mais au courant des 12 derniers mois, les décisions que Mark Carney va prendre au sujet de faire du Canada une superpuissance énergétique pourrait avoir un impact.
Parfait. Parlons maintenant du caucus conservateur. Oui. Parce que le chef encore de l'ascendant sur les troupes, M. Poilievre, mais il n'est pas élu. C'est quoi l'état de la température là-bas?
Donc, il y a une chose à surveiller aujourd'hui, et seulement une chose. Ça s'appelle la loi Michael Chong. Ça, c'est une loi qui a été adoptée par le Parlement canadien où chaque parti, au début, lors de son premier caucus, doit décider est-ce qu'on adopte les mesures de cette loi. Que disent les mesures de cette loi?
Que disent-elles?
Regardons voir. La grande mesure, c'est la suivante. Que le caucus ait le pouvoir d'évincer un chef, de le virer. Donc, depuis l'adoption de cette loi en 2015, il y a eu deux occasions. La première, Andrew Scheer, la deuxième, Aaron O'Toole. Sous le caucus Scheer, ils n'ont pas adopté cette loi, malgré le fait qu'ils ont montré la porte à M. Scheer par d'autres moyens. Sous Aaron O'Toole, on l'a adopté, cette loi. Les stratèges autour de M. Poilievre sont en train d'essayer... Ils poussent comme des constipés pour s'assurer que cette loi ne soit pas adoptée.
Pour pas que M. Poilievre risque l'éviction.
Pour que le caucus n'ait pas le pouvoir de l'émincer.
OK. Mais est-ce que l'entourage de M. Poilievre a peur que le caucus commence à se mobiliser contre lui?
Il ne veut jamais avoir une épée de Damoclès avec cette menace.
Mais ton sentiment, c'est quoi? Est-ce que tu penses que M. Poilievre, même s'il a perdu, il est encore vu par une majorité de conservateurs comme étant celui qui devrait les diriger?
Je dirais sur le terrain, par les membres, oui. Par le caucus et par les autres instances du parti, non.
OK.
Et si j'avais un 25 sous à gager aujourd'hui, je te dirais que le caucus va adopter les mesures de la loi Chong. Mais je dois aussi dire que, avec la constitution du Parti conservateur du Canada, quand un chef perd une élection, lors du prochain congrès, il y a toujours une revue de son leadership. Ouais. Donc, M. Poilievre a plusieurs étapes à franchir pour se rendre à la prochaine élection fédérale.
Donc, tu le sens pas, tu ne le sens pas en difficulté, M. Poilievre, dans son parti politique?
À l'heure actuelle, non, mais j'ai parlé avec plus de 40 députés.
Oh.
Ils veulent voir des changements majeurs.
Dans son attitude?
Dans son attitude. Donc, il y a trois choses. Numéro un, ils comparent tous à ce que M. Harper a fait en 2004. En 2004, M. Harper a viré son chef de cabinet, a viré son campaign manager, le gérant de sa campagne, et il a viré son stratège en chef. Deux, il a recruté une équipe solide. Beaucoup de députés sont déçus qu'il n'y a même pas eu une petite publicité avec l'équipe. C'était toujours M. Poilievre et son épouse.
Oui.
Et trois, de l'introspection.
Penses-tu qu'il est capable d'introspection, M. Poilievre?
Je le connais depuis 25 ans. Il doit la faire, sinon, ça va être difficile pour lui.
Dimitri, merci beaucoup. Toujours très intéressant. On va se reparler demain et on va suivre avec intérêt aujourd'hui la visite de M. Carney à Washington. Bonne journée.
Salut, Patrick.
Salut, Dimitri.
Chaque semaine, Walmart offre des bas prix sur les produits d'épicerie essentiels, comme un paquet de 30 rouleaux de papier hygiénique deux épaisseurs original ou velours de Royal, maintenant seulement $15.97 chacun. Magasinez des bas prix de tous les jours chez Walmart.
Rivière-du-Loup en spectacle présente le spectacle hommage à AC/DC le plus authentique qui soit avec High Voltage. Samedi, le 10 mai, 20h, en formule show du garage au Centre culturel Berger. Reconnu par la critique, comme l'hommage se rapprochant le plus du spectacle original d'AC/DC, venez rocker avec nous pour le show AC/DC Forever. Billets en vente au 418-867-6666 ou rdlenspectacle.com.
Ici, votre prochain VUS Mazda hybride rechargeable vous donne plus de performance, de confort et d'économie? Bonne nouvelle. Le programme Roule et Vert est de retour. Obtenez jusqu'à 2000 $ de rabais gouvernemental sur les Mazda CX-70 et CX-90 hybrides rechargeables. Plus un boni Mazda allant jusqu'à 2500 $. Oui, jusqu'à 4500 $ d'économie au total et un taux à partir de 2,9% au financement. L'offre se termine le 30 avril. Sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent. Détails chez votre concessionnaire Mazda.
Ciel FM. Bonjour, Grand Portage.
8h54, on va aller rejoindre Stéphane Tremblay, comme à tous les mardis. Salut, Stéphane.
Allô, Kevin.
Ah, tu voulais parler de Rivière-du-Loup, la ville la plus électrique du Québec? Tu m'intrigues.
Ouais, exactement. Puis je vais te sortir deux statistiques là-dessus qui sont quand même assez surprenantes. Rivière-du-Loup, je te donne la comparaison, une ville d'environ 20 000 de population. Avec Baie-Comeau, à peu près la même chose, 20 000 de population, il y a 84 bornes à Rivière-du-Loup. À Baie-Comeau, on sait que c'est un peu le froid sibérien peut-être, là, mais il y en a 17. C'est 67 de plus à Rivière-du-Loup.
Ah oui.
Et là, si tu n'es pas impressionné par ça, Kevin, je vais te comparer avec une ville beaucoup plus près de Montréal. Une ville plus populeuse. Donc, Magog, en Estrie, on sait que les gens sont plus près de Montréal, donc sont plus susceptibles d'avoir des voitures électriques. Eh bien, pour 25 000 de population, donc un 5 000 de plus que Rivière-du-Loup aux alentours, on parle de 79 bornes. Donc, il y a même 5 000 de population de plus, mais 5 bornes de moins que Rivière-du-Loup, qui est la ville ou qui en a le plus au Québec, au prorata, bien sûr, là, ou tête de pipe, là, comme disait mon défunt grand-père. Là.
C'est assez impressionnant. Honnêtement, je suis surpris, en quelque sorte. Oui, je le sais qu'à Rivière-du-Loup, il y en a quand même plusieurs, des bornes qui sont accessibles et disponibles pour le grand public, mais je ne savais pas que c'était autant, surtout si on fait la comparaison avec des villes, on va dire, de taille similaire.
Oui, surtout avec des villes qui sont encore plus près de la région de Montréal, comme je l'ai fait avec la région de Magog. J'étais persuadé qu'il y en avait plus, mais non, Rivière-du-Loup en a également plus pour les bornes électriques. Et ça, Kevin, pourquoi j'ai fait cette recherche-là? C'est parce que j'ai lu un récent sondage, et c'est pas la première fois qu'on en parle dans notre chronique, et on a toujours la même opinion là-dessus, la vente des voitures à essence qui sera interdite à partir de 2035. Ouais. C'est toujours le plan qui est sur la table. Je répète, je signe, je persiste. C'est complètement utopique de penser ça. Mais là, il y a un sondage qui vient de sortir. 60 % des Canadiens sont contre l'interdiction de vendre des voitures à essence à partir de 2035.
Ouais. Puis, en passant, je reviens sur le fait qu'à Rivière-du-Loup, on ait beaucoup de bornes. J'essaie de trouver une explication. Peut-être le fait que Rivière-du-Loup soit considéré comme un carrefour, donc entre la Gaspésie, le Nouveau-Brunswick. Donc, on est en un endroit peut-être ciblé pour justement pouvoir accueillir en haute saison un nombre important de véhicules électriques. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle on en a un peu plus ici qu'ailleurs.
Exactement. C'est vraiment une situation géographique. T'sais, Rivière-du-Loup est quand même très bien située en raison du Nouveau-Brunswick qui est à proximité. Également aussi la Gaspésie de l'autre côté et juste en face Charlevoix, ouais, via le traversier. Donc, ça devient très intéressant. Mais pour ce qui est justement de la réglementation, Kevin, là, du véhicule zéro émission, ben là, faut que tu penses que il va y avoir là-dedans aussi l'installation des bornes électriques, comme on vient de mentionner. Il va falloir tout revoir un peu le réseau et on n'est pas prêt à recevoir un réseau comme ça pour vraiment s'en aller vers les voitures électriques. Et as-tu vu, le gouvernement du Québec a revu sa position. Il a maintenant dit qu'en 2030, il va revoir et peut-être que 2035 pourrait être étiré de quelques années. On commence déjà à penser que nous avons raison de penser que c'est une idée complètement utopique.
Parce qu'en toute honnêteté, il n'y a pas grand monde qui pensait que c'était logique de croire qu'en 2035, on n'allait plus vendre de véhicules électriques au Québec. Même si ce n'est pas encore officiel qu'on va reculer, il n'y a personne qui y croit, là.
Ben, c'est parce qu'il faut revoir les bornes de recharge, la modernisation du réseau électrique, les subventions qui ont été retirées et qu'on va remettre un peu tranquillement, mais pas à la même hauteur. Bref, ça me semble un peu un fiasco, cette idée-là. Je pense qu'on va devoir refaire ses devoirs et d'y aller avec la vraie réalité.